France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'intérêt des archives radiophoniques, en l'occurrence, est bien sûr de témoigner, d'avoir fixé une parole, une idéologie, un savoir. L'intérêt de les découvrir longtemps après, alors que la situation politique, en l'occurrence, a changé, est évident. Entendre l'émission qui suit, Soirées internationales, consacrée aux écrivains allemands, alors qu'aujourd'hui n'existe plus la RDA, est un exercice de mémoire et d'imagination. Existait-il, nous étions au milieu des années 60, une littérature allemande, comprendre allemande de l'Ouest et allemande de l'Est, une littérature politique et morale? Les livres de l'Allemagne de l'Ouest étaient-ils distribués à l'Est et réciproquement? Quelques éléments de réponse le 15 janvier 1966 sur France Culture.
Soirées internationales. France Culture vous invite à écouter Soirées internationales, état présent de la vie intellectuelle dans le monde.
Aujourd'hui, quatrième soirée, l'Allemagne. Première émission par Roger Pilaudin. Avec la participation de Hans Magnus Enzensberger, Stefan Hermlin, Günther Grass, Peter Weiss, Rolf Liebermann, directeur de l'Opéra de Hambourg, François Herval et Jean Hemsler. Réalisation de la soirée, Henri Soubéran.
Allô, Peter?
Ja, ich bin hier. Ich höre.
Hallo, Peter? Kannst du mich hören?
Ja, ich höre dich gut, ja.
Na, das wird schon gehen jetzt. Sitzen aber noch ein paar da.
Ja. Kannst du mich hören?
Ja, ja, Peter, es geht sehr gut.
Ja, ich höre dich gut, ja.
Der nächste Mann.
Hallo, Peter Weiß. Hm? Hier ist Hermlin.
Ja, guten Tag, Hermlin. Tag,
Tag, Tag.
Hier Günther Grass, Peter. Hallo.
Ja.
Hier ist Günther Grass.
Ja.
Ja. Gleich daneben.
Ja.
Hörst du mich?
Non, c'est coupé.
Ces saluts, ces appels sont ceux que Günther Grass, Hans Magnus Enzensberger et Stefan Hermlin, réunis autour d'une table ronde dans un studio de la Senderfreies Berlin, adressent à Peter Weiss dans un studio de Stockholm. Je demandais en effet à ces quatre écrivains, trois de l'Ouest et un de l'Est, Stefan Hermlin, de confronter pour notre information leur point de vue sur la situation actuelle des écrivains allemands, tant dans la République fédérale que dans l'Allemagne de l'Est. Je dois dire que les propos qui vont être échangés au cours de cet entretien l'ont été avec la même franchise que celle qui caractérise les tables rondes enregistrées par ces mêmes écrivains ou par d'autres pour le compte des organismes de radiodiffusion de la République fédérale. La première question que je leur ai posée est celle-ci. Il y a deux Allemagnes. Y a-t-il deux littératures allemandes? Hans Magnus Enzensberger répond le premier.
On pourrait répondre d'abord qu'il n'y a peut-être pas seulement deux, mais une multitude de littératures allemandes. Par exemple, il existe une organisation qui s'appelle le Pen Club. Alors, on a deux Pen Club différents. L'un qui s'appelle le Pen Club Bundesrepublik, je crois. Après, il y a un Pen Club qui s'appelle Est et Ouest. Et il y a des gens qui disent que ce sont uniquement des écrivains d'Est, mais ce n'est pas vrai non plus. Alors là commencent déjà des difficultés. Ensuite, il y a un Pen Club des auteurs allemands d'exil. Et on pourrait ajouter des pen clubs de la Suisse et les pen clubs d'Autriche.
Monsieur Hermelin.
À mon avis, il n'y a pas une multitude de littérature allemande, mais plutôt une seule. L'État allemand, n'est-ce pas, était unifié seulement pendant 70 ans, tandis qu'on parlait de la littérature allemande des siècles avant cette unification. Et puis, depuis qu'il existe deux États allemands, ça n'empêche pas qu'une seule littérature allemande existe, n'est-ce pas?
Alors, Stefan Hermelin, il est quand même un fait historique que le nazisme, d'abord, a coupé la littérature allemande nettement en deux. Dans un côté, les fascistes, dans l'autre côté, les antifascistes. C'est déjà dit dans une manière très grossière. Mais c'est un fait que les deux groupes des écrivains dont je parle ne voulaient pas avoir des choses communes les uns avec les autres. C'était donc une séparation nette, assez nette. Et un fait analogue s'est produit après la guerre, au moins pour certaines années, dans les années 50 par exemple. Il y avait très peu de points de contact entre la littérature de la DDR et la littérature de l'Allemagne de l'Ouest.
Je ne sais pas si ça suffit de constater l'existence des deux littératures différentes. Ça, je ne sais pas vraiment. D'abord, l'existence d'une aile fasciste et d'une autre antifasciste, ça existait aussi dans d'autres pays, n'est-ce pas? On peut distinguer entre la littérature, disons, italienne et la littérature russe. Ce sont deux littératures, n'est-ce pas?
Oui. Alors, si vous le permettez, je voudrais que vous... oubliez un peu le point de vue historique et que l'on ne remonte pas si loin. Ce qui nous intéresse de connaître, c'est ce qu'est cette littérature allemande aujourd'hui.
Grasse n'a rien dit jusqu'à maintenant.
Mir ist es recht, aber ich muss es auch auf Deutsch tun. Wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland als Staat, als...
Si nous partons de la constatation que l'Allemagne, composée de nombreuses principautés, n'existe vraiment que depuis quelques décennies en tant qu'État unifié, et si nous en tirons la conclusion que l'Allemagne n'est pas une nation, si nous remarquons en outre que la France a une littérature nationale sans pour autant la promouvoir, nous pouvons en tirer la conclusion que nous n'avons pas une telle littérature. C'est dans notre pays, en République démocratique allemande, que la littérature nationale est cultivée avec une énergie particulière. Par contre-coup, il y a en Allemagne de l'Ouest des efforts de promotion semblables, mais sans doute pas aussi autoritaires. Je vais me contredire. Il existe une littérature de langue allemande qui ne se limite pas aux frontières de l'Allemagne, mais qui se limite à la langue et à l'intérieur de cette littérature. Il existe des modalités de la même façon qu'en France. Dans la résistance, il existait une littérature fasciste et Céline. De même, il a existé et il existe en Allemagne une littérature fascisante, même si les auteurs sont morts ou n'écrivent plus. Je pense par exemple à Kolbenheier, et il existe également en RDA une littérature nettement stalinienne, qui n'a plus de tenant aujourd'hui, ou qui végète d'une façon différente que chez nous la littérature fasciste, mais enfin elle existe. Et il existe aussi des fragments survivants d'un type de littérature ésotérique, ainsi qu'un groupe d'avant-garde qui s'est risqué hors de la réalité, mais tout cela ensemble fait une littérature allemande positive et négative.
Peter Weiss?
Nous avons vu d'ailleurs au cours de la dernière rencontre du groupe 47 qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre la littérature allemande de l'Ouest et celle de l'Est. Une littérature qui veut être digne de ce nom possède à peu de choses près le même niveau et n'a pas de thème trop fondamentalement distinct. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la littérature actuelle en RDA a une conscience particulière de son temps ou applique à son temps une critique qui soit supérieure à la littérature de l'Allemagne de l'Ouest.
Enzensberger.
Moi, je crois aussi qu'à ce moment, il est inutile de parler de littérature différente, mais je vois dans ce rapprochement dont vous parliez tout à l'heure, Peter Weiss, un fait récent. Si on regarde la littérature d'un point de vue un peu plus sociologique, on voit par exemple qu'il y a encore des graves difficultés de communication entre les deux littératures. Par exemple, il n'existe pas une diffusion des livres tout à fait libre entre les deux Allemagnes. Et sur ce point de vue technique, presque technique, je voulais dire que comme système de communication, on pourrait quand même, même aujourd'hui, les rapprochements n'est pas allé à ce point que, qu'on pourrait parler d'un système cohérent, n'est-ce pas? Il y a toujours des frontières, des difficultés. Pour ceux qui regardent les événements des dernières années, je crois surtout que ce n'est pas seulement une question de thème, cet rapprochement, que c'est aussi un phénomène esthétique. Et là, je crois vraiment que sur les points de vue formels, il y avait un développement très accusé chez la littérature de la DDR, qui à ce moment est fort discutée chez nous. Et peut-être ça a commencé avec la poésie. Alors, c'est Stefan Ermlin qui a joué un certain rôle dans ce développement.
Un mouvement nouveau a commencé à se dessiner il y a quelques années parmi les poètes. C'est un peu analogue au développement en Allemagne occidentale parce que, je dirais, aujourd'hui, la littérature allemande en tout, n'est-ce pas, des deux États allemands, donne l'impression d'une littérature fortement engagée. C'est une littérature politique et morale. Et ce sont les poètes chez nous qui ont commencé, surtout les jeunes. Il y a quelques années, au cours d'une discussion avec des poètes, j'ai posé la question des poèmes non publiés chez nous. Les rédacteurs en chef des grands journaux, des journaux littéraires, des revues, ne voulaient pas les publier. Alors, j'ai fait une petite annonce dans plusieurs journaux, disant qu'ils m'envoient personnellement, à moi, ces poèmes-là. Alors, j'ai reçu, dans quelques jours, 1400 poèmes. J'ai fait un choix, et j'ai récité ces poèmes.
Ça a été une sensation... Pas seulement littéraire, si je comprends bien, ça a été aussi un événement dans la politique intérieure de la République.
Un peu, à ce moment-là, oui. C'est vrai. En tout cas, depuis ce moment-là, des jeunes poètes ont fait des progrès qui sont maintenant très connus, par exemple Volker Braun,
oui.
Qui va être maintenant publié chez Suhrkamp aussi, en Allemagne occidentale. Et puis Karl Mikkel, qui a justement lu des poèmes au groupe 47, n'est-ce pas, à la dernière session du groupe. Il y a
Biermann.
Wolf Biermann, qui est justement de nouveau fortement discuté chez nous.
Pourquoi de nouveau discuté, sur quel plan?
Biermann, c'est un poète très original, extrêmement doué. Le type d'un poète qui est assez répandu en France, mais très rare chez nous en Allemagne. Un type qui joue la guitare, qui fait lui-même sa musique.
Qui fait penser à Villon un peu.
Oui, c'est un poète qui a très souvent des difficultés d'ordre politique chez nous, parce qu'il attaque des choses chez nous qui ne sont pas en ordre, n'est-ce pas? Il essaie de donner... de faire progresser les choses.
Vous voulez dire qu'il s'oppose au, aux lignes dictées par le régime.
Il s'oppose, je ne dirais pas aux lignes dictées par les régimes, parce que Biermann lui-même protesterait contre cette formule, n'est-ce pas? Parce que Biermann,
il est communiste,
n'est-ce pas? Il s'identifie avec le régime, il se comprend lui-même comme une part du régime, n'est-ce pas?
Mais de toute façon, on assiste là à une fonction curieuse, n'est-ce pas, de la critique littéraire. C'est-à-dire, on ne lui fait pas une critique...
Pas littéraire,
justement. Oui. Il y avait même des mesures administratives contre lui. D'après ce que j'apprends, il ne peut plus apparaître en public.
Je crois que Grasse voulait dire quelque chose.
Je crois que Biermann est pour nous...
Je crois que le cas de Biermann est particulièrement intéressant pour nous, non seulement en raison de sa qualité propre, mais aussi parce que les esprits sont partagés à son propos. En ce qui concerne l'usage de la langue, en revanche, l'Est et l'Ouest tombent d'accord. Une chose est intéressante. Biermann est attaqué en RDA et on lui reproche de se livrer à une critique anarchisante et décadente. Or, nous trouvons des cas semblables en République fédérale. Même reproche adressé à d'autres écrivains. Nous nous trouvons donc en présence d'un accord des esprits allemands dès qu'il s'agit d'écrivains qui ne se rangent pas dans une norme. J'en suis persuadé. Qu'il s'agisse de M. Sousse à Koblenz ou de M. Fröhlich à Leipzig, écrivains qui connaissent à peine leur réciproque existence, ils seraient terrifiés s'ils pouvaient constater la similitude de leur vocabulaire lorsqu'il s'agit d'attaquer des écrivains. Cela devrait nous amener à réfléchir et nous montrer les possibilités cachées de notre profession. Nous montrer également combien il est difficile de prendre un écrivain en défaut lorsqu'il fait bon usage de ses possibilités et suit une loi proprement littéraire qui ne se fonde pas sur des catégories extérieures à la littérature.
Peter Weiss, ja.
Wobei ein Unterschied nur noch besteht, dass wir im Westen unsere
avec la différence toutefois qu'à l'Ouest, nous pouvons publier nos livres et présenter nos drames, tandis que l'on interdit à Biermann de parler, et cela introduit dans le débat des dimensions très dangereuses contre lesquelles nous avons le devoir de protester. Ce qui est remarquable chez Biermann, c'est qu'il procède d'une conception de base sociale et décrit un conflit de génération tel qu'il se déroule actuellement en RDA. Et il le décrit avec beaucoup de force, et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Il faut dire que les poésies de Biermann sont parues à Berlin-Ouest chez un jeune éditeur, et on le lui reproche. En fin de compte, on peut voir que ce qu'on édite maintenant à Berlin-Ouest reste inédit à l'Est dans la Nouvelle-Allemagne, et que ce jeune éditeur, Klaus Wagenbach, suivant le sens même donné à ce terme en RDA, est un éditeur progressiste. Mais c'est le fait que l'on passe sous silence.
Grâce à insister sur le fait qu'il y a pas seulement des différences, mais aussi des analogies assez sinistres dans la façon dont traitent les écrivains dans tous les États allemands. Parce que la critique qu'on fait à Biermann a son analogue assez précise dans la critique officieuse qu'on fait à nous autres écrivains occidentaux du côté du parti gouvernemental de Bonn. Et même la phraseologie a des ressemblances parfois surprenantes qui sont peut-être enracinés dans un passé commun, un passé de la langue, n'est-ce pas, qui est, par exemple, zersetzen, je ne sais pas comment dire, décompositeur, les intellectuels décompositeurs, qui veulent seulement abîmer les valeurs, etc. C'est une façon de parler, donc, pourrions donner des exemples de tous les deux côtés. Évidemment, ça comporte aussi la possibilité d'une solidarité des écrivains de tous les deux côtés. Évidemment, il faut aussi voir la différence, c'est-à-dire il ne faut pas que nous nous fassions des martyrs, parce que c'est ce que se disait Peter Weiss, à l'Ouest, on a toujours la possibilité au moins de faire voir ce qu'on a fait.
n'est-ce pas?
Tandis que là-bas, il y a toujours des difficultés administratives. Ça prend des formes très différentes. Par exemple, le papier. Pour les imprimeries, il y a un plan pour ça. Et alors, évidemment, c'est quelqu'un administrateur qu'on ne connaît peut-être même pas qui décide si ce livre peut être publié, tiré à 1000 exemplaires ou à 20 000 exemplaires. Tout ça, c'est tout à fait extra-littéraire.
Monsieur Hamlin?
Je dois dire, je parle ici comme communiste, comme un homme qui s'identifie absolument avec les systèmes sociaux en RDA. Mais je dois dire en même temps que je considère une partie de cette lutte que nous, socialistes, devons mener en RDA pour la construction du socialisme consiste aussi en faire publier des poètes comme Biermann et d'autres, n'est-ce pas? Parce que ce sont des poètes socialistes qui méritent d'être publiés, qui sont extrêmement importants pour le développement du socialisme chez nous.
Mais est-ce que vous acceptez, vous êtes tout à fait d'accord avec ce point de vue qui consiste à refuser d'exister ou l'existence à un écrivain ou un poète qui n'est pas socialiste?
Non, pas du tout. Justement, nous avons perdu ces derniers temps un des plus grands poètes allemands en général et un des plus grands poètes de la RDA en particulier, c'est Johannes Bobrowski, un poète chrétien qui n'était pas communiste. D'ailleurs, il est publié dans les deux États allemands.
Dans la même édition comme Biermann.
Comme Biermann.
Oui.
Oui, mais évidemment, on pourrait très seulement bien poser la question s'il y a quelque chose de très socialiste dans le fait que quelqu'un qui est un distributeur de papiers décide... enfin, ça ne me paraît pas inhérent dans les socialismes, dans la construction du socialisme. Ça, il y a aussi des autres exemples. Par exemple, si on considère la situation tchécoslovaque ou polonais, surtout en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, je crois bien que la situation culturelle est beaucoup plus avancée. J'ai craint que dans ces difficultés dont on parle, qui se trouvent pas seulement à l'Est, grâce, on pourrait dire, beaucoup des exemples, je crois aussi qu'il y a là un fait, disons, allemand, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas socialiste, ce n'est peut-être pas forcément capitaliste non plus, sous cette agression latente contre les intellectuels. Notre chancelier est bonne. Devant le Parlement, a dit des phrases généralisatrices sur les écrivains et sur les intellectuels qui, à très peu près, étaient identiques à certaines citations qu'on a trouvées il y a quelques jours avec vous, M. Pilaudin, dans un disque documentaire de Hitler.
Das ist bloß eine gänzlich wertlose, oberflächliche intellektuelle Schicht, die ganz verbindet ist, zum Teil verjodet ist.
Évidemment, Hitler disait que tout ça était juif. Maintenant, on ne le dit plus. Mais ils ont toujours été compositeurs dans l'intérêt national. C'est inadmissible, des trucs comme ça. Je ne vois rien de capitaliste ou socialiste là-dedans. Je vois une tradition.
Enzensberger exagère un peu de nouveau. Ça serait quand même un peu difficile de convaincre les gens qu'il existe une spécialité allemande anti-intellectualiste. On a combattu des intellectuels partout au monde, n'est-ce pas? Dernièrement, certainement, sous le fascisme allemand, on les a combattus d'une façon tellement rigoureuse comme nulle part, n'est-ce pas? J'étais toujours sur la position des Brecht, qui a une fois formulé, sous le socialisme, sous le communisme, liberté complète pour toute la littérature, tout l'art, avec une exception, n'est-ce pas? L'exception était le fascisme. C'est une règle formulée par Brecht, et moi, je la trouve très bonne, nécessaire.
Mais est-elle observée dans la réalité?
Jusqu'à maintenant, non.
Non. Grâce?
Ja, ich würde sagen, das ist Brechts Formel.
Oui, je dirais que je suis d'accord avec la formule de Brecht.
Rein sozialistische oder bloß sozialistische Formel?
Ce n'est pas une formule socialiste pure et dure.
Der weiß,
mais c'est la formule d'un écrivain qui sait ce que peut supporter la littérature, les engagements qu'elle peut prendre, et aussi qu'une société doit supporter et accepter la littérature avec les difficultés qu'elle implique. Si nous en revenons à notre problème allemand dans ce cas précis, je pense que nous devons prendre garde à une chose ici à l'ouest ou à Berlin-Ouest. Sans doute, nos collègues sont d'un tout autre côté. Et je pourrais me disputer toute une nuit avec Biermann sur le communisme. Pour moi, il est un communiste dans le meilleur sens du mot, un communiste ouvert et combatif, et moi je suis plutôt un social-démocrate, beaucoup plus social-démocrate. Mais si nous pouvons nous supporter l'un et l'autre, pourquoi nos États nationaux ne pourraient-ils se supporter? Et si la RDA veut avoir une littérature nationale, entreprise que je tiens pour quelque peu naïve, si elles le veulent, doit y faire attention. Les gens qui mettent en route cette littérature nationale n'ont que peu de rapport, le plus souvent, avec la littérature. En effet, ils ont été dépassés par les pays socialistes, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, etc. Et même là-bas, n'hésitons pas à le dire, il existe une espèce de concurrence et c'est ainsi que la littérature avance. On se dit là-bas, nous voulons être ceci et voulons avoir cela, on fait valoir de hautes exigences. Mais lorsqu'on ne laisse pas percer ceux qui ont le plus de talent, lorsqu'on ne laisse pas voyager en RDA un grand poète lyrique comme Huchel, lorsqu'on le réduit au silence, il y a peut-être des raisons personnelles, mais ce n'est pas là une manière d'agir bien normale. Ce sont des agissements très mauvais à l'égard des écrivains du point de vue de l'État. Certes, en République fédérale, quelques éléments tentent d'en venir là, mais la situation en République fédérale ne tend pas à cela. Nous pouvons nous défendre et nous nous défendons. Je suis très heureux que nous trouvions surtout cet appui auprès du Parti social-démocrate, mais aussi auprès de démocrates indépendants chez qui on exige l'application pure et simple de la Constitution. On peut appeler la thèse de Brecht thèse de la littérature humaniste. Et au sein de cette littérature humaniste, on peut établir des rapports entre les écrivains des deux États allemands. Mais les cercles officiels de la RDA commettent la faute, et c'est le cas avec Biermann, de jouer quelque peu contre cette littérature humaniste. Cela signifie que tout ce qui implique des expériences et des recherches formelles est englobé dans cette littérature humaniste et qualifié de littérature libertine ou de littérature décadente. De la sorte, la balance est faussée. Dans la campagne menée contre Biermann, on prétend qu'il joue un mauvais tour aux auteurs humanistes, ce qui naturellement déforme complètement la réalité. Car les écrivains humanistes, à l'Ouest, sont totalement solidaires de Biermann.
Il y a aussi une autre chose qui m'intéresse dans cette confrontation, ce que les gouvernements ne s'intéressent pas seulement au contenu de ce qu'écrit un écrivain, il y a aussi un peu de tous les deux côtés, mais surtout en Allemagne orientale, il y a toujours le crime ou l'accusation de formalisme. Par exemple, il existe des cas vraiment très bizarres où il y a, par exemple, un poète qui n'aime pas la ponctuation, disons. N'est-ce pas? Oui. Et dans ses poèmes, il enlève les commas.
Permettez que je vous interromps. Oui. Parce que le formalisme, ça, il faut être juste, n'est-ce pas? Le formalisme, heureusement, c'est un peu hors des discussions.
Ah, c'est périmé. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Ah bon.
Mais c'est quand même...
C'est plus l'anarchisme, maintenant.
Oui. Anarchisme, c'est le mot d'ordre.
Décadence, par exemple.
Je voudrais qu'on soit bien d'accord sur ce terme de formalisme qui me semble avoir un sens un peu ambigu. Vous voulez dire par là la littérature dite expérimentale?
C'est ça, oui.
C'est ça un peu, mais ça va peu. Plus loin, même...
Vous savez, par exemple, il y a 10 ans, on était encore dans une époque où ces gens-là considéraient Brecht... comme un poète formaliste.
Oui. Oui.
Mais tant mieux, enfin, parce que ça veut dire, selon moi, j'ai toujours compris cette insulte comme une louange, parce que c'était, ça voulait dire que c'était un écrivain qui s'occupait un peu de sa façon d'écrire, ce qui, enfin, n'est pas...
n'est pas négligeable pour un écrivain, ni méprisable.
C'est ça.
Günter Grass.
Ja, auf der einen Seite ist es komisch, und auf der anderen Seite ist es natürlich...
D'un côté, il est comique, et d'un autre côté, assez triste que les lecteurs n'aient pas le plaisir de lire nos livres. Mais je pense que c'est plutôt... tragique et en tout cas regrettable, que nous, nous trois qui nous entretenons à cette table avec vous, Peter Weiss à Stockholm, nous ayons écrit des livres, mais qu'on ne puisse pas se les procurer en RDA, où ils ne sont pas en vente. Et les livres de M. Hurel ne paraissent que dans la République fédérale. Je voudrais prendre l'exemple de Uwe Jonsson, connu en France, et dont les livres traitent tous de l'Allemagne fédérale et de la RDA. Jusqu'à aujourd'hui, il habite à Berlin-Ouest, mais en fait, il est resté un écrivain de la RDA. Et il a quitté son pays pour s'établir en République fédérale, à Berlin-Ouest, parce que la politique littéraire de la RDA ne pouvait supporter un auteur comme Uwe Jonsson. C'est une perte pour la RDA. Cela ne fait aucun doute, si l'on se place de nouveau au point de vue de la littérature nationale. Et je crois que c'est un bon exemple pour montrer comment le rideau tombe sur quelqu'un. Et ce que nous devrions prendre en considération, nous tous, qui avons eu à en souffrir en commun, c'est que ces catégories, décadents, anarchistes, nous sont imposés par des gens qui n'appartiennent pas à la littérature. Nous aurions pu parler ce soir de choses beaucoup plus intéressantes et amusantes, de détails de style, des véritables produits de notre profession, si nous n'étions pas obligés de consacrer l'essentiel de notre temps à ces béotiens. Et je le répète, à ces béotiens des deux Allemagnes.
Peter Weiss.
Oui, c'est un problème qui me concerne particulièrement puisque je me qualifie moi-même de socialiste. Pourquoi, dans une société qui est construite selon des principes révolutionnaires, l'art ne dispose-t-il pas de la liberté absolue de la Révolution ? Nous disposons pourtant du grand exemple de la Révolution russe. Dans les premières années qui l'ont suivi, les arts, dans certains domaines, ont connu une évolution révolutionnaire, elle aussi. Dans le cas présent, c'est une politique à très courte vue qui est suivie et qui porte grand préjudice à l'ordre de la société. Ce serait une très bonne chose que de souligner sans cesse que dans une société qui se prétend révolutionnaire, on fait tout pour stopper la marche de l'art et pour canaliser cet art dans une seule et même direction.
Günter Grass a, je crois, très justement remarqué que pour une discussion littéraire, la nôtre... il a été très peu question de choses vraiment littéraires. On a eu presque pas le temps de faire des titres, de discuter les questions des méthodes, des questions des styles littéraires. Mais en soi-même, ces phénomènes reflètent un peu nos difficultés, n'est-ce pas? Parce que on est toujours obligé de se débattre contre des choses extra-littéraires et pré-littéraires, n'est-ce pas? Les conditions pour que la littérature puisse
exister.
Comme par exemple, ni les livres de Grass, ni les livres de Peter Weiss, ni mes livres, moi, sont distribués en Allemagne orientale. Et les gens qui te citent sur les questions, ce ne sont justement pas les révolutionnaires dont parlait Peter Weiss tout à l'heure. Non, ce sont des gens qui n'ont vraiment rien à voir. Ce sont des
Béotiens,
comment Béotiens.
Béotiens, ce sont des Béotiens. Et ces Béotiens, ils sont dans une immense majorité de tous les côtés, surtout sur les plans politiques, c'est-à-dire sur les plans où les choses sont décidées, où la politique culturelle est faite. Et tout cela nous oblige, n'est-ce pas, à nous défendre. Et voilà, je vous prie d'excuser le niveau de cette discussion. C'est un peu sur le niveau des Béotiens.
Auf Wiedersehen, Peter.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ja.
Danke, Peter.
Auf Wiedersehen, Herr Mlin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 janvier 1966.